Évidemment, de la façon dont je présente toujours les choses, ne vous attendez pas à ce que je vous fasse un cours d'histoire simple, bien évidemment. Moi, je suis pour le chidouche, c'est-à-dire pour le renouvellement du sens, pour une lecture contemporaine de nos vieux textes, qui nous permet de vivre avec, parce que je pense que ce texte est toujours vivant, à condition de savoir en extirper le sens. Donc, s'il y a des choses qui vous décoiffent, interpellez-moi après, et puis bon, on en parlera très très volontiers. Aucune question n'est interdite. Coëlette. Même pour ceux qui n'ont jamais lu ce texte de l'Ecclésiaste, ces paroles habitent le langage vernaculaire, le langage courant. Quand vous dites « rien de nouveau sous le soleil », quand vous dites « vanité des vanités, tout est vanité », quand vous dites, et c'est le nom d'un magnifique livre d'Elie Wiesel, « tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est pas remplie », il y a un temps pour tout, malheur à l'homme seul, répand l'œuvre de Dieu qui peut redresser ce qu'il a courbé. Tout ceci, ce sont des termes de l'Ecclésiaste qui sont passés dans l'âge courant. Et on va retrouver ce genre de locution tout au long de la littérature, quelle que soit la religion. Par exemple, on va retrouver des phrases de Coëlette chez Bossuet et également chez Omar Khayyam, le grand poète persan. Définition de ces termes de Coëlette. Le terme de Coëlette, il est basé sur une racine, pour ceux d'entre vous qui font de l'hébreu, les racines Kouf, He, Lamed. Et en hébreu, ça veut dire une assemblée. Et ça donnera, c'était une invention française au Moyen-Âge, qu'on appelait le Kahal. Le Kahal du Moyen-Âge, c'était l'organisation des communautés juives sous l'égide des princes féodaux qui les protégeaient et qui étaient chargés de prendre l'impôt pour le donner au duc ou au comte de la ville. Donc c'était une invention très particulière au Moyen-Âge. Et ça vient de cette racine. Actuellement, une communauté juive s'appelle une Keïla. Vous voyez que c'est la même racine de ce terme. C'est une référence à un personnage qui est d'abord rassembleur dans un but d'enseignement et d'enseignement d'une ouverture à la sagesse essentiellement. Pour les chrétiens, le terme « ecclésia » s'est employé, ça vient du grec « ecclésia » en sachant bien qu'à l'époque des Grecs, l'ecclésia n'avait aucune signification religieuse. Mais c'est le terme employé pour nos amis chrétiens. En anglais, c'est un peu différent, puisqu'on va employer le terme de prêcheur, de prédicateur, dans le sens de professeur et d'enseignement. Je vous dis tout de suite que c'est un terme qui est féminin, c'est pas innocent. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi c'est pas innocent. Au sein du canon juif, ce texte s'inscrit dans ce qu'on appelle les ketuvim. Vous vous souvenez de l'anagramme de la Torah écrite, c'est Tenach, T-N-Raf. Et dans les Ketuvim, donc le dernier de ces livres, on va voir tout un tas de livres très très différents. Les trois livres poétiques que vous connaissez bien, Psaume, Proverbe et Job, les cinq rouleaux, Shir HaShirim, Ruth, Echa, c'est-à-dire les Lamentations, Esther et l'Ecclésiaste, et divers livres comme Daniel, Esdras, Néhémie et les Chroniques. Ceci, c'est cette dernière partie de la Torah écrite. Le canon chrétien retient Job, les psaumes, les proverbes, l'Ecclésiaste, les cantiques dans les livres poétiques. C'est un texte qui a été très fortement discuté par les rabbins lors de la fixation du canon. Vous savez que le canon juif a été fixé par la Grande Assemblée à la fin du 1er siècle, au début du 2e siècle, et c'est un livre donc relativement tardif. La rédaction de ce texte se fait, et merci les linguistes, dans une langue qui est très proche de celle du Talmud. C'est-à-dire, vous vous souvenez du Talmud. Le Talmud, c'est le commentaire de la Torah écrite, qui a été très longtemps oral, et qui a été fixé ensuite de façon écrite par des rabbins. Le Talmud de Jérusalem, dont on se sert très très peu et qui est partiellement retrouvé entre le 2e et le 4e, 5e siècle. Le Talmud de Babylone, donc le Talmud Babli, dont on se sert habituellement, qui va être écrit entre le 4e et le 9e siècle après Jésus-Christ. Donc ce texte justement de l'Ecclésiaste est rédigé dans un hébreu qui est très proche du Talmud et qui est truffé de la langue araméenne, de l'araméisme. L'araméen, c'était la langue vernaculaire de tout le Moyen-Orient à cette époque-là. Vous savez que l'hébreu était réservé à la synagogue, l'araméen était la langue tout à fait courante. Nous allons célébrer dans quelques jours le Seder de Pâques, la Pâques, qui est tout simplement la scène du Christ. Hein, quand vous voyez les tableaux qui représentent le Christ et ses apôtres, eh bien, le Christ célèbre le Seder de Pâques. Il va donner les quatre coupes de vin, il va donner le pain azim à ses membres. Eh bien, à cette époque-là, donc, et comme maintenant, Le texte du Seder commence en araméen pour que tout le monde puisse connaître. Quand on dit « Alachma Anya », on parle araméen. « Voici le pain de misère que nos ancêtres ont mangé en Égypte ». Donc, la langue de l'Ecclésiaste est truffée d'aramaïsme. Il est connu par beaucoup de gens. Il est cité par Flavius Joseph dans son texte « Contre Appion ». L'influence hellénistique s'y fait sentir, et on va y revenir parce que c'est le point essentiel de mon exposé de ce soir. La langue perse s'y trouve représentée, et comme souvent dans ces textes-là, et pas seulement dans ce texte-là, puisque la langue perse est représentée bien sûr dans le livre d'Esther, hein, le livre qu'on vient de lire à Pourim, un exemple très particulier, ce que vous appelez paradis, paradeisos pour les Grecs, vient du perse, qui s'appelle pardès, qui veut dire un verger, tout simplement. Donc cette acception va se retrouver dans ce texte de l'Ecclésiaste, et pas seulement. On va trouver, donc, exemple de terme araméen, tekef, c'est araméen, et on va trouver des mots phéniciens. Illou, par exemple, d'un phénicien, comme d'ailleurs, je vous le dis tout de suite, l'allocution sous le soleil, ça vient de la culture phénicienne, et ça vient pas du tout de la langue hébraïque. Hein. Les linguistes fixent la rédaction de ce texte, j'espère que je vais vous faire bondir, entre moins 223 et moins 187, sous Antiochos le Grand. Donc un texte extrêmement récent. Il est important de le dire. J'ai fait tout à l'heure allusion au caractère féminin de ce mot « Qohelet ». Et on l'explique tout simplement en ayant recours à la grammaire arabe. Et il faut parler de nos cousins arabes, qui existaient déjà à cette époque-là. Le terme, par exemple, qui veut dire « roi » en hébreu, « melech », s'écrit « m-el-chaf », de la même manière en arabe, il va dire non pas « roi », mais il va dire « propriétaire ». Donc, quand l'auteur de l'Ecclésiaste dit « je suis roi à Jérusalem », on dit « non, il est tout simplement propriétaire d'une maison à Jérusalem ». De la même manière, dans la langue arabe, les éponymes qui indiquent une famille, une tribu ou une nation sont toujours au féminin. Donc là, quelque part, on se rend compte que le terme de Qohelet représente très certainement une famille particulière. L'auteur se présente dans les deux premiers chapitres de l'Ecclésiaste comme fils de David et roi d'Israël, mais aussi il se présente comme un philosophe qui vit au milieu de gens riches, brillants, aisés, de bourgeois et de prêtres. La tradition rabbinique et celle des premiers chrétiens désignaient le roi Salomon comme auteur. C'est une thèse qui est totalement abandonnée actuellement par les auteurs modernes, qu'il s'agisse d'auteurs laïcs et même des auteurs religieux conservateurs. On pense qu'il s'agit plutôt d'un poète hébreu qui vivait entre moins 250 et moins 200 approximativement, qui appartenait au milieu du temple et qui utilise Salomon comme porte-voix, comme modérateur, comme cadre littéraire d'une pédagogie de la sagesse. Une thèse a été émise. On a évoqué l'hypothèse d'un poète totalement pessimiste qui écrit un texte qui va être revisité par un sage, par un chacham, et qui va être également vérifié par un pieux, par un chassid. Mais cette construction est complètement abandonnée parce qu'elle semble un petit peu trop torturée. Autre chose qui me semble plus intéressant, le modèle serait plutôt celui de ce qu'on appelle la diatribée des stoïciens et des cyniques. Vous voyez déjà incursion du monde hellénistique dans ce texte-là. Un dialogue entre maître et élève, comme on va pouvoir le voir dans les pensées de Marc Aurèle, dans les textes syro-babyloniens, dialogue du maître et du serviteur, ou en Égypte, chant du harpiste aveugle, lamentation des sages. Tout ça sont des livres de sagesse. L'Ecclésiaste n'est pas le premier, mais aussi dans les thèmes sapiensaux de Théonis de Mégare, la sagesse populaire des tragiques grecs, d'Euripide en particulier, et la théorie de l'instabilité des choses chez Héraclite, Héraclite qui a tellement influencé Épicure, sur lequel nous allons revenir. Parce que je vous le dis tout de suite, c'est un texte, le texte de l'Ecclésiaste, qui est complètement dans la lignée de la philosophie d'Épicure. La traduction grecque dont nous disposons est extrêmement servile, elle est très proche du texte hébraïque. Il y a également trois versions latines, dont une qui est antérieure à Saint Jérôme, et qui est très fidèle. Et c'est un texte qui a été abondamment commenté par les pères de l'Église. Dans la liturgie juive, quand est-ce qu'on intègre ce texte? Et là, c'est très intéressant. C'est un texte qui est lu à la fête de Soukhot. La fête de Soukhot, c'est la fête des cabanes. C'est une fête qui va se produire 8 jours après Yom Kippour, au début d'année. Vous vous souvenez de ce séquençage très dense de fêtes au Nouvel An. Vous avez Rosh Hashanah, vous avez Kippour, 8 jours après le Grand Pardon, et dès le lendemain Kippour, on commence à construire la cabane pour la fête de Sukkot qui va durer 8 jours, et dont vous savez en gros que ça symbolise tout simplement l'errance du peuple juif dans le désert et le fait que c'est dans le désert qu'on entend la voix et pas forcément dans les immeubles en béton. Voilà. Mais il y a quelque chose qui est passionnant pour la fête de Sukkot, c'est que ce n'est pas une fête uniquement juive. C'est une fête absolument universelle. À l'époque du Temple, le grand prêtre sacrifiait 80 taureaux le jour de Sukkot. 80 taureaux, autant que de nations dans le monde, proclamant ainsi que Sukkot était une fête pour toute l'humanité. Donc cette idée d'une libération par la pauvreté volontaire était une fête pour toute l'humanité. Et c'est ainsi qu'on va retrouver mention de ceci chez le prophète Zacharie, qui dit « À la fin des temps, tout le monde viendra à Jérusalem adorer l'Éternel ». Également chez ce magnifique prophète qu'on lit jamais, qui s'appelle Amos, et qui dit qu'à la fin des temps, on va relever la soukat David Anophelet, la maison de David, la cabane de David qui s'est effondrée. Donc, caractère universel, ce qui souligne bien que ce texte de l'Ecclésiaste a une dimension et plus importante qu'on ne croit, et certainement s'adresse à un public qui dépasse largement le simple peuple juif. Le rapport à un autre texte que vous connaissez, qui s'appelle l'Ecclésiastique, est passionnant à étudier. C'est un texte qui est connu par des manuscrits grecs de 200 après Jésus-Christ, par une ancienne traduction latine, par celle qui est celle des pères de l'Église, c'est Jésus, fils de Sirach, on l'appelle aussi le Ben Sirach ou l'Ecclésiastique, qui a été lu très longtemps en grec, syriaque, latin, ceci pendant des siècles. Il est connu de Saint Jérôme, qui en parle, et il est connu des rabbins qui rédigent le Talmud. Le texte hébreu, on va le retrouver dans la Geniza du Caire. Vous savez ce que c'est qu'une Geniza ? Une Geniza, c'est, vous savez que pour nous, même le parchemin de la Torah est absolument sacré. C'est-à-dire que quand une Torah est abîmée, qu'on ne peut plus la lire, que les lettres sont effacées, ou que c'est un peu déchiré, on ne va pas la détruire, on va la mettre dans une espèce de placard, de tombeau, de cave, qui s'appelle une Geniza. Et la Geniza du Caire a donné lieu à des recherches archéologiques absolument extraordinaires, parce qu'on a retrouvé des foules de choses. Donc on y a retrouvé donc 4 fragments de ce texte de Ben Sirach, de l'Ecclésiastique, à Qumran, 3 fragments, et 5 chapitres à Masada. Et on date sa rédaction d'environ 50 ans après l'Ecclésiaste. C'est d'ailleurs moins 180 sous Ptolémée 7. Exactement. C'est un texte qui est fait de 50 chapitres et d'un appendice qui va reprendre tous les thèmes de l'Ecclésiaste, qui a fait le commentaire, qui cite au passage un personnage que nous connaissons, qui s'appelle Simon le Juste, puisque les rabbins du Talmud, au IIe siècle, citent Simon le Juste. Mais l'inspiration et la conclusion de ce texte, entendez bien, est beaucoup plus conforme à la mystique néo-pythagoricienne qu'à celle des stoïciens et des cyniques. Donc il y a un premier clivage. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que très certainement, je parlais tout à l'heure à Eliane de la porosité entre la philosophie grecque et la tradition juive, il semble quand même bien que la population du désert essénienne ait été fortement influencée par l'école néo-pythagoricienne, allégorique, beaucoup plus que par celle des cyniques, des stoïciens et d'Épicure. Ce texte de l'Ecclésiastique, ajouté à la théorie de la sagesse par la connaissance, qu'on appelle la gnose. La gnose est très très large, mais en l'occurrence, c'est de la gnose, sagesse de la connaissance. Elle fonde la pensée essénienne. Les deux fondent la pensée essénienne. Les Esséniens, vous savez, c'est une secte des Sadducéens. Les Sadducéens, c'étaient les gens du Temple. Vous savez qu'à l'époque du Christ, la terre de Palestine bouillonnait de sectes et d'interprétations diverses de la tradition juive et de courants le plus souvent apocalyptiques et messianiques. Or, les Esséniens s'étaient séparés des Sadducéens parce qu'ils récusaient la corruption du temple, vous voyez, comme Jésus, et s'étaient réfugiés donc au désert où ils avaient construit toute une nouvelle philosophie destinée à préparer la venue du Messie. Donc c'est très apocalyptique, avec justement cette l'utilisation importante de textes consacrés, comme les prophètes, mais également le texte de l'Ecclésiastique, qui vont garder, et également ces éléments consécutifs à la gnose. L'Ecclésiastique ne figure pas au canon juif. Il est exclu du canon juif. Donc vous voyez un texte qui reprend les mêmes thèmes et qui, à 50 ans de distance, n'y figure pas. Alors, on sait très bien maintenant pourquoi il n'y figure pas. Parce que le canon a été rédigé par des pharisiens. Après la destruction du peuple juif par les Romains, la seule secte qui persiste, c'est les pharisiens. Et c'est eux qui vont être plus ou moins protégés par les Romains, qui vont s'installer à Yavne. Et dans le texte de Pessah qu'on va lire bientôt, ça commence par le récit de rabbins, Rabbi Tarfon, Rabbi Akiba, Rabbi Azaria, qui sont dans une maison à Yavne et qui discutent de la sortie d'Égypte. Donc c'est eux qui vont commencer à rédiger le Talmud, et surtout c'est eux qui vont faire la recension des textes et déterminer le canon juif. Donc très curieusement, on s'aperçoit que sur des critères sectaires, les pharisiens vont exclure les Esséniens du canon. Ça, c'est déjà très intéressant. Mais c'est très intéressant aussi de savoir que ce sont des gens très influencés par la philosophie grecque épicurienne qui vont exclure des gens très influencés par les théories néo-pythagoriciennes. C'est très curieux. Ce qui prouve encore bien la porosité des deux mondes à cette époque-là. On va y revenir dans un instant. Entre toutes choses, on en connaît un qui a continué sur ce courant-là, c'est Philon d'Alexandrie, le célèbre Philon le Juif, qui était de formation platonicienne et qui va devenir néo-pythagoricien, parce qu'il va, lui, proposer une lecture entièrement allégorique de la Bible. Quels sont les thèmes développés dans ce splendide texte de l'Ecclésiaste ? Ils tournent tous autour de la question de savoir si la vie vaut la peine d'être vécue. Et la réponse implicite est négative, car, dit-il, tout est vanité, c'est-à-dire néant. Comment traduit-on ce mot qui commence ce texte ? Vous vous souvenez de ce mot, akol avalim, akol evel, tout est vanité, vanité des vanités, tout est vanité. Et evel, c'est tout simplement, se traduit, il faut lire comment le traduit Chouraki par exemple, c'est une buée, un souffle, une illusion, une futilité. Et là, j'en viens à un des paradigmes sur la violence qui est dans la Genèse, qui est le combat de Caïn et Abel. Comment on lit ce combat actuellement ? Bien évidemment, interdiction du meurtre, surtout entre frères, mais on n'est pas dans cette histoire-là, dans la tragédie grecque. Comment on lit ça maintenant ? Ben, on se rend compte qu'Abel a toutes les qualités, que c'est l'intellectuel, qu'il est avec ses petits moutons dans les prés, qu'il est très bien, qu'il peut penser, faire de la philo, écrire, faire des tas de choses. Alors que son frère, lui, le Caïn, va modifier la terre. Celui que sa mère a appelé, j'ai acquis un homme, notre père à tous, Caïn, et ben c'est un bourrin qui est là. Et on explique le meurtre d'Abel par Caïn, par l'idée que Abel, Evel, vanité, Abel s'appelle vanité, il s'appelle buée. Hein. Et bien, il est déjà le premier exemple de la trahison des clercs dont parlait Julien Binda. C'est l'intello qui a raté son coup. Il n'a pas su faire un espace de parole pour écouter la parole de son frère. Donc, la lecture actuelle de l'histoire de Caïn et Abel, c'est l'inversion totale. On se rend compte que le fautif dans cette histoire, c'est probablement cet intellectuel d'Abel, dont on dit, pour se moquer de lui, cet intello, que tout ce qu'il peut raconter, c'est vanité, c'est souffle, c'est buée, c'est illusion. De la même manière, autre métaphore que je citerai de l'illustration de mon texte, ceux d'entre vous qui sont amateurs de peinture, ils ont repéré dans les tableaux ce qu'on appelle des vanités. Vous savez que dans les très beaux tableaux à partir du XVIe siècle, on va toujours voir dans un petit coin une tête de mort, et on va toujours voir des ossements. C'est ce qu'on appelle les vanités. Et c'est la citation du texte de l'Ecclésiaste au sein de toute exaltation de l'art humain. Se rappelle quand même de la vanité, se rappelle de la mort. Ce texte va s'articuler autour de 5 arguments. Le premier, Qohelet, le personnage a tout expérimenté, sagesse, plaisir, richesse, et il se rend compte que tout est néant. Deuxièmement, l'homme comme animal est soumis aux événements naturels, vieillesse, mort, maladie, injustice, et seul Dieu connaît et conduit les choses. Troisièmement, l'homme est soumis au travail et à la vie en commun. Et il lui faut jouir de son bien-être acquis, surveiller son langage, surveiller ses paroles, se tenir à sa place. Et moi, ça me rappelle quelque chose, cette histoire. C'est le Ma'at égyptien. Hein. Les livres de sagesse égyptiens parlent de cette attitude qu'est le Ma'at, le fait d'être un bon citoyen, d'être à sa place, de ne pas faire mousse, de ne pas faire de vagues. Donc on voit comment ce texte est inséré dans les cultures moyen-orientales de l'époque. Quatrièmement, la vie est imprévisible, mais il faut la prendre au sérieux, sans oublier que nos efforts sont vains et que la mort est inévitable. Et enfin, l'effort ne garantit pas le succès. Sagesse et savoir sont illusoires, et il faut donc vivre le présent intensément, sans passion, jouir de la vie sous le regard de Dieu, avant la vieillesse et avant la mort. Ça vous rappelle quand même quelque chose qui s'appelle le carpe diem, bien évidemment. Et la conclusion de ce texte, étonnamment, c'est un texte qu'on va citer à chaque enterrement. Lors de la prière de l'ensevelissement, on cite l'Ecclésiaste, sa dernière phrase, « Crains Dieu, respecte ses lois, c'est là tout l'homme ». Il existe donc manifestement une contradiction dialectique radicale entre le pessimisme avéré de ce texte et cet appel presque permanent, subliminal, à la providence divine. Ce qui fait de ce texte un texte universel, mais un texte qui n'est pas que religieux, qui est également philosophique, et qui évoque quand même des paradigmes complètement laïques. C'est pour ça que je vous ai dit que ce texte était vraiment un texte tout à fait général. Quelques illustrations textuelles, avant de passer aux commentaires. Premier argument, tout est déterminé à l'avance par Dieu. Une saison est dévolue à chaque chose, un moment pour chaque expérience sous le soleil. Dieu apporte chaque chose précisément à son moment. Il donne au cœur l'éternité sans que l'homme puisse prévoir ce qui va être donné. Quant au désir, le désir est complètement risible pour l'Ecclésiaste. Lorsque Dieu a apporté, rien ne peut être ajouté ou retranché. Concernant la justice, j'ai observé sous le soleil, en même temps que la justice, juste à côté, réside l'injustice. La religion, s'il y a beaucoup de gens pieux, et il y en aura toujours, persiste toujours, impie et oppresseur. L'avenir prédéterminé, on va y revenir à ça, ce qui advient, adviendra, ce qui doit arriver, arrivera. Également, les actions de l'homme droit et intelligent sont inspirées par Dieu, même l'amour, même la haine. La mort et l'oubli sont le lot de tous. Intelligence et talent n'ont aucune valeur durable. Ce qui veut dire que activité humaine, expérience, savoir sont sans horizon et sans perspective, comme on peut le voir d'autres passages en 1, 9, 11, en 3, 8, 10, en 11, 4, 6, j'en ai relevé bien d'autres. Coëlette n'est ni un libertin, ni un voluptueux, et surtout pas un hédoniste. L'ivresse, l'alcool lui fait horreur. Il est comme Montaigne, il est un sceptique. Il faut donc jouir du temps et des moyens impartis à l'homme, se résigner à la maladie, aux vexations, à la bêtise humaine, sans espérer compensation ou rétribution future dans ce monde ou dans le monde futur. C'est là l'esprit du monde hellénistique et en particulier d'Épicure et des stoïciens. On y reviendra dans un moment dans les commentaires. Mais cette analyse est toujours tempérée par l'intuition juive d'un Dieu bon, d'un Dieu qui pardonne et qui a créé l'homme à son image. Et cette intuition de la transcendance éclaire ce constat désolé d'un monde absurde voué au hasard et à la nécessité. L'homme doté d'un esprit venant de Dieu, animé par son souffle, est doté donc de libre arbitre. Il est libre et responsable au regard de la pensée juive du choix entre le bien et le mal. Donc toujours cette dialectique un peu divergente. Alors quelle lecture on peut faire de l'Ecclésiaste aujourd'hui? Alors il y a bien évidemment une lecture qui n'est pas la mienne, qui est la lecture rabbinique, orthopraxe. Vous savez, je vous l'ai déjà dit ici, que je déteste le mot orthodoxe, qui pour nous veut rien dire. Hein. Les littéralistes, les fondamentalistes juifs, ils sont plutôt orthopraxes qu'orthodoxes. Alors, premier élément, c'est l'orthodoxie des vues, c'est-à-dire pour eux, effectivement, l'auteur c'est Salomon. Et c'est quelque chose que, historiquement, avec les atouts de la science contemporaine, on ne peut absolument pas admettre. De la même manière qu'il est difficile de faire comprendre à nos amis orthopraxes que les psaumes de David n'ont jamais été écrits par David, que l'écriture des psaumes, cette sublime littérature extraordinaire, qui est vraiment au cœur de nos pratiques, à vous protestants, catholiques et juifs, et nous juifs, ce sont des textes qui sont rédigés sur une période de 550 ans. Sur des matrices davidiques et qui se sont terminées avec la restauration du temple, encore que on pense que certains ont été rédigés à moins 450. Donc, vous savez, vous m'entendrez ici. Moi, je pense que la notion de révélation du texte est entièrement revue. Ce sont des textes rédigés de main d'homme. L'inspiration, bien sûr, elle est liée à la foi, mais ça note rien au contenu de ces textes que de les analyser avec les moyens historiciens que nous avons maintenant. Ça ne note absolument rien. Simplement, je pense qu'une écriture qui, comme celle des psaumes de David, va se faire sur 550 ans, que ce prophète Isaïe, qui est 1, 2, 3, c'est une école Isaïe. Isaïe, ça écrit sur 150 ans. C'est encore plus beau que si c'était un homme tout seul, le fait que ces gens aient entraîné avec eux des quasi-universités prophétiques et un monde vraiment dense et intelligent autour d'eux. Donc, orthodoxie des vues, c'est Salomon qui a écrit tout ça. Et d'ailleurs, ce qui a donné le nom à la conférence de ce soir, le bon midrash que me racontait mon papa et mon rabbin quand j'étais petit, Dieu est tellement content de ce qu'a fait Salomon avec le temple. Entre-temps, il a oublié que Salomon, pour venir voir, a massacré toute sa famille, bien évidemment. Ça, les rabbins n'en parlent pas. Donc, Dieu est tellement content qu'il va voir Salomon et qu'il lui dit, Salomon, qu'est-ce que tu veux? Tu veux de l'or, des pierreries, tu veux des palais, tu veux des femmes? Et Salomon dit, répond. Et c'est probablement la seule chose que je retiens, parce qu'elle est très belle. Il dit, je veux que tu me donnes un cœur intelligent. Et ce cœur intelligent, qui fait le titre de la soirée de ce soir, veut dire simplement que notre lecture, elle doit se faire bien évidemment avec toute l'objectivité et la modestie de l'intelligente, mais également avec toute la subjectivité du sentiment, de la passion, de l'adhésion et de la foi. Pour les rabbins, l'Ecclésiaste parle d'un monde qui est sous le soleil, comme le disent les Phéniciens. Mais le monde sous le soleil, c'est pas le monde de Dieu, hein. Dieu, il est largement au-delà. Dieu transcende complètement. Donc, quand on parle de sous le soleil, on parle de ce monde-là. Et pour les rabbins, donc, ce monde-là, sous le soleil, nous est donné, mais il nous est donné de façon conditionnelle. L'alliance, elle est absolument conditionnelle. Il est comme la terre d'Israël, elle est donnée, mais pas pour faire n'importe quoi. Ça faudrait le dire à nos amis israéliens actuellement. Le cadeau, il est conditionnel, hein, bien évidemment. Il est donné pour qu'on soit effectivement un peuple de prêtres, un peuple qui réalise un peu ce qui est dans le message biblique. Donc, les rabbins rappellent, et ils ont raison de le faire, que la source de la grandeur, c'est la Torah. Et ce sont les mitzvot. Et notre mission à nous, c'est d'appliquer les mitzvot pour faire venir les temps futurs. En sachant bien, et ça, maintenant, il n'y a pas de clivage là-dessus entre les gens partisans comme moi d'une lecture renouvelée et les orthopraxes, que la Torah, ce n'est pas un code religieux. Ce n'est pas un code juridique, c'est d'abord un code éthique. C'est toute une théologie du rapport à l'autre homme. Voilà, c'est la lecture. Et la dernière chose qui est absolument fondamentale, c'est que pour les rabbins, il n'est pas nécessaire de comprendre les fins. Parce que mes pensées ne sont pas tes pensées, mes chemins ne seront pas tes chemins. Voilà, souvenez-vous un peu de cette belle phrase du prophète. Et pour les rabbins, c'est absolument illusoire de chercher les raisons que peut avoir Dieu dans ce monde qu'il nous a laissé. Et j'aime bien citer une phrase du Talmud que j'aime beaucoup, qui est « Kulo chai veulai ». Ça veut dire « Tout ceci, c'est la vie, et pourtant ». Et moi, je pense que le questionnement juif, il est dans ce « et pourtant ». De la même manière que, pour clore une difficulté rabbinique talmudique, on va employer l'anagramme « teiku ». Teiku, ça veut dire, quand on ne sait plus quoi dire sur un questionnement, et bien teiku, c'est l'anagramme de lettre « tishbi yifater kushiyot ve sheelot ». C'est-à-dire, le tishbi, c'est Eli, l'homme qui va amener le prophète à la fin des temps, résoudra les difficultés et les questions. Donc cette idée qu'on renvoie au monde futur, une question qui n'a pas de... Ça témoigne bien de cette attitude talmudique qui consiste à dire, bon, on va essayer de comprendre, mais pas certain qu'on y arrive. Ça vous rappelle quelque chose, vous qui êtes familier du texte biblique. La deuxième fois que Moïse descend avec les tables du mont Sinaï, au milieu des éclairs, du tonnerre, le peuple juif est terrifié. Il se couche par terre, se roule par terre, il a envie que ça cesse. Et qu'est-ce qu'il dit à Moïse ? Tu nous dis rien, naase venishma. On va d'abord faire, après on va essayer de comprendre. Et bien l'attitude rabbinique, c'est ça. On va d'abord faire les mitzvot, après on va essayer de comprendre. Naase venishma. Voilà un peu comment on peut avoir une lecture religieuse orthopraxe. Mais moi je pense qu'il est beaucoup plus intéressant, avec vous, d'avoir une lecture, j'allais dire presque laïque, de ce texte, parce que je le considère à titre personnel comme un texte de sagesse, bien sûr, mais dont le questionnement est intemporel, universel et complètement existentiel. Je vous ai beaucoup parlé du rapport de la pensée juive avec la philosophie grecque. C'est pas par hasard que les rabbins du Talmud, quand ils rédigeaient le Talmud, eh bien, dans les intervalles, ils rédigeaient quoi ? Ils rédigeaient des piyutim. Piyutim, c'est le mot hébraïque pour poésie. Ils avaient déjà appris des Grecs qu'au fond, c'était quand même très ludique et très exaltant de rédiger des poèmes. Et tous ces piyutim de ces rabbins, ce n'est pas des amusettes, puisque nous les récitons dans les offices de Rosh Hashanah et de Kippour. Les piyutim, ils sont célèbres. Donc c'est déjà une imitation de ce qui se faisait chez les Grecs à cette époque-là. Et la philosophie qui prévalait à l'époque de la rédaction de l'Ecclésiaste et ensuite de l'Ecclésiastique, du Ben Sirach, eh bien c'est tout simplement cette grande filière qui part d'abord des cyniques, que vous connaissez bien. On les développe cyniques parce qu'ils se comparent à des chiens, c'est parce que tout simplement ils se réunissaient dans un gymnase qui s'appelait Cynosarque. On les appelait pour ça les cyniques. Et ces gens-là, vous vous souvenez, c'est la première école, après -400, -450, qui disait « Nous méprisons toutes les convenances bourgeoises, nous méprisons les lois, nous méprisons la richesse, parce qu'au fond, la véritable vertu, elle est justement dans ce mépris et dans le dépouillement. » Ces gens-là vont donner naissance à des philosophes matérialistes, comme les stoïciens, qui considèrent qu'il n'y a pas de Dieu, que le Dieu c'est la matière, et que la tension de la matière est celle de la volonté, et que par la volonté on peut accéder à la vertu et à l'harmonie. Et par contre, le dernier avatar de cette période, ça se passe exactement à l'époque de la rédaction de l'Ecclésiaste, c'est Épicure. Mais pas l'Épicure de bas étage qu'on vous a présenté, pas celui qu'on a présenté comme un hédoniste. Épicure n'est pas un hédoniste. Épicure, c'est quelqu'un qui a été élevé par un papa qui était instituteur, qui était platonicien lui-même, et qui a été formé également par des platoniciens. Et c'est un homme qui va réunir ses copains dans un jardin qui s'appelle le jardin de Lampsaque, et qui va réaliser le premier phalanstère, où on va vivre avec frugalité, où on va vivre avec une grande harmonie, on va sortir des tracas de la ville, on va cultiver le jardin et cultiver la sagesse et les arts, et on va vivre dans une certaine tranquillité, ce qu'on appelle nous en médecine une ataraxie, qui est là. C'est ça Épicure. Et cette théorie des plaisirs, en disant profitons des plaisirs qui nous sont donnés, mais n'en créons pas d'autres, abstenons-nous du désir, ça c'est hérité des stoïciens. Et je veux dire, cette philosophie va être tellement importante qu'elle va se prolonger non seulement dans l'Ecclésiaste, mais également dans le monde latin. Souvenez-vous, vous avez fait ça au lycée, le De Natura Rerum de Lucrèce, qui va influencer jusqu'à des auteurs comme Machiavel, par exemple, qui avait Lucrèce sur sa table de chevet. On ne sait pas bien ce qu'il en a fait, mais c'est très important cette tradition-là. Dans la tradition française, c'est une théorie qui va être reprise par Gassendi dans son conflit avec Descartes. Et sachez par exemple que le premier texte philosophique qu'a écrit Karl Marx, c'était un texte sur les stoïciens et sur Épicure. Pourquoi ? Parce qu'il disait « voilà des auteurs matérialistes que j'aime ». Or, Épicure n'était pas aussi matérialiste que ne l'étaient les stoïciens. Pour les stoïciens comme Héraclite, par exemple, le monde était fait d'atomes, bien évidemment, de matière, d'atomes, mais qui était régi par une certaine rigidité mécanique. Et bien Épicure, lui, il invente quelque chose qui est très moderne, c'est le clinamen. C'est-à-dire qu'il dit que tout ceci est en mouvement, et tout ceci se modifie absolument sans arrêt. Mais surtout, c'est cette espèce d'attitude de scepticisme et de retrait par la vie telle qu'elle va, que vont retenir, justement, par cette porosité avec ce monde, par ses influences sur le monde juif. On a fêté, vers Noël, une fête qui s'appelle Hanouka. Vous connaissez Hanouka. Hanouka, c'est une fête dont les côtés nationalistes m'exaspèrent un petit peu. C'est la victoire des Asmonéens, la famille de Matatiaou, de Matthieu et ses cinq fils, dont Judas Maccabée, sur les Grecs, sur les Syro-Grecs, d'Antiochos Epiphanes. Et la dédicace du temple, après 3 ans de guerre contre eux, qui vont libérer toute la Palestine. Si vous vous arrêtez là, vous n'avez strictement rien compris. La guerre des Maccabées contre les Grecs, c'était une guerre civile entre Juifs. Il y avait les Juifs qui voulaient adopter la civilisation de l'époque triomphante qui était celle du monde hellénistique et ceux qui ne voulaient pas, ceux qui voulaient rester complètement particularistes. Vous voyez qu'on peut lire les événements tout à fait différemment et apparemment, les particularistes, les ultra-religieux ont gagné. Mais ils n'ont gagné qu'en apparence. Parce que l'influence hellénistique a été tellement forte que tous les descendants des Maccabées ont pris des noms grecs, se sont habillés comme les Grecs, se sont mis à poil dans des gymnases comme les Grecs. Ils ont adopté pratiquement toute la civilisation grecque. Donc, bien comprendre que, à la fin du fin, c'est le vaincu théorique qui a gagné la partie. Donc, cette porosité, elle était non seulement politique, non seulement culturelle, mais également philosophique. Et c'était tellement important aux yeux des rabbins, parce que même quand j'étais petit, dans ma communauté de juifs polonais à Grenoble, quand on voulait parler de quelqu'un comme un mauvais juif, on le traitait d'apikoiros. En yiddish, ça veut dire épicurien. Je veux dire que cette influence était tellement mal vécue que cet épicurien était devenu, dans le monde traditionnaliste, une véritable injure. Mais je ne m'arrêterai pas à cette porosité qui explique une grande partie des aspects de ce texte. Pour parler un peu du judaïsme en tant que philosophie. Et là, je ne suis pas du tout sur la lignée rabbinique classique. Pour ces gens-là, la religion juive est d'abord une religion. Eh bien, Dieu merci, on peut considérer maintenant, avec des gens très pieux, très religieux, le judaïsme comme une philosophie, comme d'ailleurs il a été considéré par beaucoup de Grecs à cette époque comme une philosophie. Il y avait des opposants grecs et il y avait des partisans de cette philosophie. Je ne vous ferai pas l'injure de vous citer des gens qui ont intitulé leur œuvre « Philosophie du judaïsme », Abraham Yehoshua Heschel, cet homme tellement important qui a écrit « Dieu en quête de l'homme », qui a écrit « Les bâtisseurs du temple », en émettant cette idée extraordinaire que les Juifs ne sont pas un peuple de l'espace, mais un peuple du temps, pas le peuple de l'histoire, mais le peuple d'une méta-histoire qui n'a rien d'historicien. Quelqu'un qui est proche de vous, qui est la fille du grand rabbin Safran de Genève, qui s'appelle Starobinsky Safran, qui a écrit un très beau livre récemment, qui s'appelle justement « Philosophie du judaïsme ». Et vous savez, elle est mariée avec un intellectuel de haute volée qui s'appelle Jean Starobinsky, qui est aussi un commentateur historicien de la Bible extraordinaire, mais complètement laïcisé. Donc je veux dire que c'est pas on peut considérer absolument le judaïsme comme une philosophie. Et d'ailleurs, ça a commencé très tôt. Tout à l'heure, je vous ai cité Philon le Juif, Philon d'Alexandrie, cet homme d'une très grande famille qui a perpétué des traditions qui étaient des traditions, mais en les imprégnant de la philosophie grecque la plus pure, qui est celle. Il était d'abord platonicien, ensuite il est devenu néo-pythagoricien. Le grand Maïmonide, le Rambam, exactement comme ses maîtres, Al-Farabi, dans son milieu, parce qu'il écrive en arabe, Maïmonide, ne l'oubliez pas, et ses maîtres comme ceux d'Averroès et comme ceux d'Avicenne, ses maîtres c'était Al-Farabi, et bien tous ces gens cherchaient à réconcilier la tradition d'Aristote avec les traditions monothéistes. Et notre grand Mendelssohn, l'homme des Lumières, qu'on a surnommé le Kant juif, tellement il disait que la Torah invoque un Dieu qui est tout simplement identifié à la raison au sens kantien du terme. Et que les temps messianiques, c'est tout simplement le grand rêve de la philosophie allemande de l'époque, le règne de la raison éclairée par la beauté. Et je crois que Mendelssohn, sa vocation était celle-là. Parlons de l'école allemande de philosophie qui a révolutionné la pensée juive au milieu du 19e. Parlons d'Hermann Cohen, qui lui aussi a écrit effectivement une immense philosophie du judaïsme. Et pour aller jusqu'au temps maintenant, quels ont été nos maîtres lorsque le judaïsme a ressuscité après la Shoah? Eh bien, pour la plupart, c'était des philosophes. C'était André Néer, l'école d'André Néer, l'école prophétique d'André Néer, celui qui disait la présence de Dieu dans l'homme s'illustre par sa perfectibilité, ce qui est une chose absolument fondamentale. Je ne parle pas de Lévinas, qui a parfaitement transmis l'idée que ce message de la Bible était d'abord un message éthique, un message sur l'altérité. Lévinas qui disait le visage de l'autre homme avant la Torah. Et mon maître, qui a été Manitou, qui a été l'autre école, qui était l'école d'Orsay, où j'ai étudié, je veux dire, c'est tous des gens, aussi bien Atlan, aussi bien les successeurs de Manitou, qui étaient tous d'abord et toujours des philosophes. Ce qui fait dire à quelqu'un que mes amis philosophes connaissent bien, qui s'appelle Léon Chestov, que la pensée juive se situe entre Athènes et Jérusalem. Et son ami Benjamin Fondan, le grand poète d'origine roumaine qui est mort à Auschwitz, l'homme qui, pendant toute sa détention, a récité à ses co-détenus des poèmes de Rimbaud et de Verlaine, et qui est allé à la chambre à gaz en récitant du Rimbaud. Et lui, Benjamin Fondan, qui est un peu notre voisin, puisqu'il s'est marié à Saint-Jean-d'Arvée, près de Chambéry, et tous les étés, avant qu'il ne soit déporté, il était à Chambéry. Hein. Et Benjamin Fondan, qui disait de façon assez ironique, probablement, pour se promener comme il s'est promené, Ulysse était juif. Cette évolution va s'accentuer, et j'en viens au nœud de ma réflexion, avec Martin Buber et Franz Rosenzweig, qui sont les inventeurs de ce qu'on a pu appeler l'existentialisme juif. Avec cette notion extrêmement forte, pas simplement les théories de Buber sur le dialogue, le je et le tu, et pas l'analyse dans l'étoile de la rédemption de ce monde expliqué par l'étoile de David qu'a fait Franz Rosenzweig, dans son bouquin magnifique qui s'appelle L'étoile de la rédemption. Ils ont parler surtout de ce retrait de Dieu, de l'éclipse de Dieu, de retrait de Dieu. Ils ont repris la vieille notion de l'ouria, du retrait de Dieu, qui laisse à l'homme sa liberté de choix, mais au prix de ce que Buber appellera une insécurité radicale. Et ce que j'aime mieux appeler, avec les mots de ce grand écrivain portugais qui s'appelle Pessoa, une intranquillité. Pour eux, l'existence précède l'essence. Vivre, c'est s'incarner. Vivre sa vie, agir et s'engager. Vous voyez, je vous rappelle le texte de l'Ecclésiaste. Donc, le thème du mal, il est renvoyé à une méta-éthique qui va transcender les catégories classiques du bien et du mal. Comme l'histoire juive, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la bouche de Heschel, devient une méta-histoire, une cosmogonie qui est centrée sur le peuple juif, mais qui est emplie de paradigmes qui intéressent toute l'humanité. Alors la question qui se pose maintenant, c'est vivre, c'est quoi? Et qu'est-ce que c'est que la liberté? C'est ça, les grandes questions de l'Ecclésiaste de Qohelet. Que dit le Talmud de vivre? Le Talmud dit deux choses qui, à mon avis, sont très centrales. Il dit d'abord, vivre, c'est perdre. C'est au prix d'une perte permanente que la vie se passe pour tout un chacun. Et il dit aussi, tout de suite après, une chose formidable. Il dit, vivre, c'est renaître à chaque instant. Comme je vous le disais, et ça sera ma conclusion, Qohelet pose le problème de la liberté de l'homme. La nature de la liberté, c'est un mystère. La masse d'arguments en faveur d'un déterminisme rend très difficile la foi, la croyance en cette liberté. Or, nous dit le judaïsme, sans celle-ci, cette liberté, il n'y a pas de sens à la vie morale, il n'y a pas de sens à l'éthique. Si on ne prend pas la liberté au sérieux, on ne peut pas prendre l'humanité au sérieux. Et pour le judaïsme, être libre, c'est transcender la nature, la société, les besoins, le désir. Et vous savez que le judaïsme, Bernheim nous l'a bien appris, se méfie du désir. Le désir est la nécessité. Que nous dit Kohelet ? Kohelet nous dit que la liberté est un acte de l'esprit, une extase spirituelle. La philosophie grecque, elle évoque un cosmos, un ordre des choses. La Bible repose sur la création comme liberté, comme désordre, comme inquiétude, et comme une situation où Dieu attend l'homme. Et Schell dit encore, et je termine avec lui, être libre, c'est signifier. Et il dit aussi, signifier parce que Dieu a besoin des hommes. Voilà ma conclusion. Et comme je vous ai un peu accablé, je vais vous raconter une histoire qui se rapproche un peu de l'esprit de Kohelet. Vous savez que j'aime bien les histoires. C'est l'histoire d'un rabbin chassidique qui s'appelle Rabbi Bounim, qui étudie jusqu'au moment dans l'appartement où il voit arriver son petit-fils, Yahiel, qui pleure à chaudes larmes. Il lui dit, Yahiel, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi est-ce que tu pleures? Viens sur mes genoux, raconte-moi. Grand-père, grand-père, lui dit Yahiel, nous jouions à cache-cache avec mes amis. Ils sont partis, ils ne me cherchent plus, alors je pleure. Et Bounim lui dit, tu sais, en fin de compte, tu es comme Dieu. Il se cache et personne ne le cherche. Et Yahiel dit à son grand-père, et qu'est-ce qu'il fait Dieu? Et le rabbi Bounim dit, je crois bien qu'il pleure. Voilà, il y avait beaucoup de choses, hein. Voilà, et bien écoutez, j'espère que je ne vous ai pas trop décoiffé, que vous n'êtes pas trop resté, mais je ne pense pas avec Eliane que vous restiez sur la lecture d'une Bible comme l'Histoire Sainte, comme on disait quand j'étais petit, et que vous voyez qu'on peut avoir une lecture un peu plus énergique et vraiment très motivante de ce texte. Et l'idée même que ce texte s'insère dans d'autres cultures, je vais vous le dire, ça ne me gêne absolument en rien du tout. Qu'il y ait des influences mésopotamiennes, assyriennes, perses, phéniciennes sur nos textes sacrés. Je vais vous dire, voilà, j'en ai vraiment rien à faire, au contraire. Ça m'exalte plutôt.
Nous avons senti cela. On n'entend pas.
Prends l'autre.
Alors, je crois qu'il faut qu'il y ait silence, car les deux ne marchent pas. Donc, je pense que ce silence est nécessaire pour peut-être se poser un peu. Après cet exposé absolument extraordinaire et tellement dense, oui. Il faudrait reprendre chaque
phrase. Prends le micro parce qu'on va pas. Ceux qui ne sont pas là, qui vont écouter, ne vont rien entendre.
Ah, tu reprends le problème.
Alors je reviens peut-être à ce que je disais. Il était nécessaire de se poser, d'avoir à faire vraiment silence. Parce que c'était très dense, c'est très dense, c'est extraordinaire. Effectivement, cette dernière histoire plus douce, qui est une vraie beauté du cœur, nous dit bien quand même que, selon ta dernière phrase, vraiment être libre, c'est signifier que Dieu a besoin de nous pour parfaire peut-être cette création qu'il nous a donnée, et que tous les textes que nous pouvons lire ont une connotation les unes avec les autres. Moi j'adore, je pense que c'est extraordinaire de pouvoir justement ne pas limiter à dire c'est ainsi, et de pouvoir ouvrir ce que tu viens de faire aux cultures différentes, en sachant que nous sommes porteurs tous, et c'est ça la fraternité. avec un mouvement qui se fait depuis la nuit des temps. Donc on a tendance, les hommes, certains en tout cas, ont tendance à enfermer complètement nos cultures, en pensant parfois que ce sont les vrais, qu'il y a la vérité. Et là, tu nous montres que ça peut être tellement ouvert et juste. Alors, j'espère qu'il va y avoir des questions.
Hier soir, Jean-Albert, on lisait ensemble, parce qu'on a un cercle biblique, non pas contradictoire, mais commun, qui s'appelle Bible Ensemble à Chambéry, où on partage une lecture des textes du premier livre, du deuxième livre, avec chrétiens, musulmans, protestants, catholiques. On lit ensemble et on commente. Et justement, on a parlé des Grecs sur un texte de Jean et qui raconte que les Grecs montent pour la fête. Et j'ai expliqué donc hier soir que la seule fête où on monte à Jérusalem de toutes les nations, c'est justement Soukhot. Voilà. Donc le fait que Jean place ceci à Pâques, c'est une erreur historique, c'est la fête de Soukhot. La deuxième élément qui est passionnant, c'est qu'est-ce que des Grecs faisaient en Galilée ? Eh bien, il faut savoir que depuis la destruction du temple, les Juifs ne sont plus majoritaires en Galilée. Que ce sont là des populations exogènes, des Syriens, des Grecs, des Phéniciens qui habitent la Galilée. Ce qui veut dire que le contexte où le Christ va donner son enseignement est un contexte déjà complètement universel. Et il suffit de lire ce texte de Jean pour comprendre qu'effectivement, il s'adresse aux Grecs parce que les Grecs, ils étaient majoritaires sur cette région-là. Très intéressant.
Alors est-ce aussi pour cela qu'il emploie souvent le mot juif, mais que c'était choquant, et encore aujourd'hui ?
Alors moi, je ne suis pas choqué, parce qu'il suffit de lire intelligemment Mireille Adastebel, que tu connais bien, que tu as fait venir, et que j'ai eu le plaisir, grâce à toi, de rencontrer, après l'avoir rencontré par ses livres. Elle dit une chose qui est tout à fait évidente. À l'époque du Christ, 20% des Juifs vivent en Palestine. Il y a 2 millions de Juifs en Palestine, 10 millions de Juifs dans l'Empire romain. Les plus grandes communautés sont en Égypte et sont en Irak actuel, à Babylone. Et la majorité des Juifs, bien évidemment, n'ont jamais connu Jésus. Sur la terre de Palestine elle-même, le nombre de gens qui ont fréquenté Jésus, qui l'ont rencontré, c'est peanuts par rapport au peuple juif. Donc quand il dit il va chez les Juifs, il va chez quelques Juifs. Point. Et c'est tout. Une infime minorité. Et quand tu mets au sein de cette minorité des gens qui n'étaient pas forcément recommandables, qui est tout simplement tout l'appareil corrompu du temple, compromis dans les trafics avec les Romains, il est évident que ce monde-là est un monde encore plus restreint. Voilà, donc il faut savoir remettre en situation les textes des évangiles. Et moi, je me sens pas du tout injurié quand on me dit... je suis plus embêté quand on me dit que Jésus va chez les Juifs, parce que comme il est juif, c'est quand même un peu normal qu'il aille chez les Juifs.
Merci.
Deuxième fois, auriez-vous la bonté de recommencer votre histoire du grand-père ?
Ah, ça perd tout son sel, là.
Avec remerciement.
L'histoire du grand-père, je vous dis, c'est un rabbin chassidique. Le chassidisme, c'est une grande culture mystique piétiste qui naît au XVIIIe siècle. C'est le Baal Shem Tov qui a fondé ça. Donc ça remplit pratiquement tout le judaïsme est-oriental à cette époque-là. Donc Rabbi Bounim étudie, comme tout bon juif, tout rabbin, il étudie. Et il voit arriver son petit-fils qui s'appelle Yehiel, qui pleure, et le rabbin lui demande « Mais pourquoi pleures-tu » et lui dit « On joue à cache-cache avec les copains. » Et puis, ils sont tous partis, ils ne me cherchent plus, alors je pleure, quoi, je suis très malheureux. Et Rabbi Bounim lui dit « Mais tu sais, Dieu est exactement comme toi, il se cache et personne ne le cherche. » Et le petit garçon dit à son grand-père « Et qu'est-ce qu'il fait ?» Et son grand-père lui dit « Ben, je crois bien qu'il fait comme toi, il pleure. » Jean-Albert.
Alors, je pense qu'on pourrait peut-être parler aussi d'Alexandrie, parce que pendant plusieurs générations, il y avait cette rencontre et ce dialogue entre une importante communauté grecque, une communauté égyptienne et une communauté juive très importante. Mmh. On peut penser peut-être à la bibliothèque d'Alexandrie, si tu as des choses à dire sur cette vie d'Alexandrie. Et on pense peut-être, ça c'est une théorie qui n'a pas été prouvée, que quand Joseph et Marie et Jésus se sont réfugiés en Égypte, peut-être qu'ils étaient à Alexandrie.
Voilà, tu parles de ça à cause de Claude François, je suppose.
Voilà, enfin.
Je te taquine.
Que penses-tu de ce qu'a été ce phare et la destruction terrible de cette fameuse bibliothèque qui était très connue?
Oui. Elle n'est pas connue dans le monde juif, cette bibliothèque. Par contre, la communauté juive égyptienne a été absolument énorme. Elle était faite de communautés urbaines, de marchands souvent extrêmement riches, de communautés populaires, et il y avait plus de juifs en Égypte qu'il y en avait sur la terre palestine à cette époque-là. Donc cette allusion à des communautés très très distinctes les unes des autres, mais mélangées en Grèce, de Grecs, de Romains, Alexandrie, d'Égyptiens, est tout à fait réelle. Elle est liée d'abord au fait que si les Romains détestaient que les Juifs restent sur leur terre, et ils l'ont bien montré après la dernière grande révolte en 136 après Jésus-Christ, où ils ont déporté pratiquement la moitié de la population et changé le nom de la terre d'Israël, qui ne s'appelait plus Judée ou Israël, mais qui s'appellera depuis Palestine, c'est les Romains qui ont inventé ça, après avoir massacré toute la population. Il faut savoir que dans le reste de l'Empire romain, très tôt, les Juifs ont été citoyens romains. C'est-à-dire qu'ils avaient le respect de leur tradition, d'une part, des communautés puissantes, et ils avaient tous les droits des citoyens romains. Il y en avait deux qui n'avaient pas, parce que les Romains se méfiaient. L'armée et la magistrature. Voilà, donc il y avait une petite apartheid qui était là, mais ils ont très bien fait. D'ailleurs, si le christianisme s'est tellement bien répandu dans l'Empire romain, il a commencé dans toutes les communautés juives, qui étaient faites pour beaucoup de juifs venant de Palestine, mais également de convertis romains au judaïsme, parce que ce qu'on appelait à cette époque-là la religion orientale était très très à la mode. C'était vraiment dans le coup d'être dans l'aristocratie romaine, de pratiquer la religion orientale. Donc cette tolérance était importante, ça n'a pas duré très très longtemps. Puisque, dernière grande révolte juive, 136 après Jésus-Christ, mais au siècle suivant, au IIe siècle, immense massacre des Juifs d'Égypte par les Romains, parce qu'ils se sont révoltés à leur tour. Alors quand je dis qu'ils n'avaient pas droit à l'armée, il y a une curiosité, c'était l'île d'Éléphantine, où il y avait des mercenaires juifs, parce que les Juifs se vendaient comme mercenaires, comme soldats dans tout le Moyen-Orient, et on a retrouvé synagogues, installations, inscriptions en hébreu dans l'île d'Éléphantine. C'était des soldats juifs qui étaient là, qui vivaient leur vie. Et c'est une communauté qui restait florissante, mais qui a subi un massacre presque total de la part des Romains au IIe siècle après Jésus-Christ. Donc les Romains, ils ne faisaient pas beaucoup de cadeaux hein, en général. C'était peut-être par rapport aux Grecs qu'une civilisation un peu différente, si on peut appeler ça une civilisation. Voilà, quant à la grande librairie d'Alexandrie, je n'en ai jamais trouvé mention outre part. Alors le judaïsme pratiqué était, une émanation du judaïsme palestinien. Donc il y avait toujours une prédominance des rabbins pharisiens, bien évidemment, qui ont fixé le canon, les rites, et qui écrivaient le Talmud, qui était reçu. Mais il y avait une très forte influence de la pensée grecque. J'ai parlé de Philon. Il faut bien comprendre que Philon, il n'était pas tout seul. Il y avait un clone de la pensée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de la pensée essénienne, qui était arrivée sur Alexandrie. Donc il y avait toujours cette espèce d'émigration des différentes sectes juives à cette époque-là. Imaginez bien ce monde complètement explosé à l'époque du Christ, Palestine, où il y avait 36 façons d'être juif, mais où il y avait surtout une tension épouvantable qui était liée au à un occupant absolument prédateur et à un conflit. Il y avait un conflit démographique, c'est que la démographie a explosé pour des ressources qui étaient en grande partie ponctionnées par les Romains. Donc c'était une situation de crise absolument permanente. Et au milieu de tout ça, il y avait une secte particulière, très sympa, qui s'appelait les Zélotes, et qui assassinait, qui se vantait d'avoir tué plus de Juifs que de Romains, quoi. C'était les six fameux sicaires, dont la théologie s'exprimait à coups de couteau. Vous voyez, nous avions nous-mêmes nos talibans à cette époque-là. C'était très particulier. Alors, quand on vous raconte qu'à Masada, le siège des Romains s'est fait contre les populations esséniennes ou des Juifs pharisiens, pas du tout. C'était les Zélotes qui étaient à Masada. C'était le dernier carré des Zélotes. Et ils étaient un peu partout, puisque dans les apôtres, vous en avez un qui s'appelle Simon le Zélote. Hein, vous le connaissez bien, celui-là.
Oui, moi, je souhaiterais revenir sur les deux points clés de votre exposé. Le premier qui est l'exercice de la liberté soulevé par la pénétration de l'école stoïcienne encore plus large, pardon, l'école de Bonté, dans Coëlette. Il y a un point un peu technique, mais on n'est pas obligé d'en parler, mais il y a quand même une partie non négligeable du stoïcisme tardif qui rejoint Dieu, où la déité est tout à fait présente. On sait que ça démarre avec le génie intérieur, et ça termine avec Dieu. Donc là, le problème de la déité se pose différemment. En revanche, ce qui est très important, c'est la connaissance de ce qui est à notre portée, de ce qui ne l'est pas. C'est ce que dit Coëlette dans toute sa première partie, bien en sûr. Disant, occupe-toi de ce qui est à ta portée, fais ton petit sabot, là où de toute façon tu ne pourras pas agir, ça ne te regarde pas, ça regarde Dieu, ça regarde l'univers, mais en tous les cas ça ne te regarde pas. Donc là-dessus, si vous voulez, la notion de liberté, elle est quand même relativement induite. C'est un faux débat, enfin je pense que c'est un faux débat, non, Coëlette. Il n'y a pas de vrai débat sur la liberté, parce qu'elle est déjà induite par cette vision stoïcienne. Épicure, c'est un cul-de-sac.
Coëlette pose la question du déterminisme. Et c'est une question très contemporaine, le déterminisme. Avec tout le travail qui est fait actuellement sur l'analyse de ce qu'on appelle le transhumanisme, on est en plein dedans. C'est un problème contemporain.
Mais le déterminisme, ce n'est pas la liberté, hein, ce n'est pas la question.
On est bien d'accord. Si vous voulez, j'essaye d'être un peu plus clair. Le texte de Coëlette, il est vraiment conforme à toutes les philosophies de la sagesse qu'on rencontre, je l'ai dit tout à l'heure, aussi bien en Égypte qu'en Mésopotamie, il y a eu ces grandes écoles de textes de sagesse. Des textes où on disait qu'il ne fallait pas chercher plus loin, il fallait se contenter de sa vie, il fallait être un bon citoyen, un bon père, un bon mari, il fallait se méfier du désir, se méfier des plaisirs, et se méfier de ce qu'on racontait pour être comme ceci. Voilà. L'intuition juive, elle va dire au-delà du soleil, il y a autre chose, il y a des voies que nous ne comprenons pas, mais il y a une éthique qui peut transcender un peu ces facteurs physiques et ces déterminismes. Voilà, c'est une réponse apportée par le judaïsme, et la dernière phrase très lapidaire du texte pratiquement est en contradiction totale avec ce qui s'est dit avant. Quand le Coëlette termine en disant « Crains Dieu, observe ses lois, c'est là tout l'homme », il ne dit pas autre chose que ce que j'ai cité de façon humoristique tout à l'heure sur le Naaseh v'Nishma. On va faire, on va vivre, et puis on va peut-être essayer de comprendre. Voilà. Mais il y a une sortie quand même qui est proposée.
Il y a une double sortie,
il y a l'introduction dans un monde déterminé, il y a quand même l'introduction de la transcendance. Alors que ce n'est pas évident dans ce monde, sûrement pas dans le monde des cyniques, sûrement pas dans le mode des stoïciens, où effectivement c'est quand même un monde sans Dieu, hein, où Dieu est la matière. Vous n'êtes pas d'accord?
Ah non, pas du tout. Non, on
n'a pas la même lecture.
Non, on n'a pas la même lecture, mais il y a toute une branche de l'école du portique qui est carrément déiste.
Oui, oui. Bon.
Une branche un peu tardive, mais oui. Par contre, vous avez tout à fait raison de soulever la fin de Coëlette, puisque la fin de Coëlette, c'est... Pardon. La fin de Coëlette, c'est l'intuition de l'éternité. C'est le secret révélé aux hommes. L'intuition de l'éternité. Et ça, c'est pas du tout grec. Ça, c'est vrai.
C'est vrai.
C'est tout autre chose.
Moi, je dis simplement que c'est l'acceptation du principe d'incertitude, et le prix, c'est cette notion quand même que nous avons été créés et créés par un Dieu bon et miséricordieux, et qu'on a été créé dans le cadre d'un projet. Ce qui veut dire que, si on résume en termes extrêmement lapidaires, on a la liberté qu'on se fabrique, en fin de compte. Voilà comment je dirais les choses.
J'aurais voulu que tu nous précises un peu mieux ce que tu parlais, le côté féminin du Qohélète.
Oui, alors justement, ça c'est frappant, le terme de Qohélète. Qohélète se présente effectivement avec un nom de femme. Et c'est un texte qu'on peut lire quand même parfois comme un texte assez humoristique, hein, quand même, Colette. Il a d'abord cette façon qu'il a de décrire de façon extrêmement acide un peu le monde qui l'entoure. C'est quand même quelqu'un qui sort d'un milieu privilégié et qui n'a aucune pitié pour ce monde. Hein. C'est de ça qu'il s'agit. Le fait de prendre un nom féminin, ça appartient déjà à une forme d'identification, et ça, j'ai dit tout à l'heure que la source, on va la trouver dans la grammaire arabe. Quand on parle au féminin, on parle de toute une famille, tout un corps. Donc c'est quelqu'un qui va se revendiquer, indiscutablement, comme faisant partie, sans doute pas d'une famille royale, mais de quelqu'un qui a l'autorité et l'expérience d'un monde qui est un monde extrêmement aisé, extrêmement doté par la nature, à la fois intellectuellement. Et voilà, c'est une façon de se présenter comme ceci. Mais moi, je le lis un peu différemment. Je le lis également comme une critique supplémentaire venant des femmes qui sont si souvent dans le judaïsme, tenues en lisière, tenues à l'extérieur. Il faut vraiment qu'elles fassent des coups d'État pour devenir prophétesses ou gérer le monde, alors qu'en fin de compte, elles sont absolument partout. Et que pour la tradition juive, bien évidemment, nous savons très bien que la table familiale a remplacé le temple de Jérusalem, et tout ce qui se fait à la maison est infiniment supérieur à tout ce qui se fait à la synagogue. Donc je crois qu'il y a à la fois un argument dialectique en disant « je me présente comme une femme, donc j'ai des raisons supplémentaires de critiquer le milieu du temple où je vis », et aussi dans cette idée « je revendique quand même, sous cette espèce d'afféminin, le nom de ma gens », comme diraient les Romains, de ma famille, hein. Puisque, effectivement, le féminin est employé comme ce qu'on appelle un éponyme, c'est-à-dire d'une famille qui, en l'occurrence, est plutôt nobiliaire et religieuse. Voilà un peu comment je vois les choses. Tu as peut-être une autre explication, hein, toi qui es très savant, hein, peut-être que tu as autre chose à me dire.
Il y a peut-être ce féminin intérieur de chaque homme.
Oui. Alors il y a tout. Alors actuellement, nos amis, exégètes contemporains, ils se régalent. Il y en a qui théorisent entièrement l'idée qu'il faut lire quand même notre célèbre rabbine maintenant. Bah, oui. Il faut Pauline. La lire, hein, quand même.
ou Pauline Bay, ou Delphine Horviller.
Je parle de Delphine Horviller, dans ses derniers livres, elle est complètement jubilatoire, parce que pour elle, Dieu relève du féminin, indiscutablement. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, c'est un élément dialectique très moderne, de présenter les choses, non pas comme dites par Salomon, mais dites par une femme. À mon avis, c'est un pied de nez absolument extraordinaire à l'establishment. Mais Lise Horviller, elle est absolument désopilante quand elle dit, au fond, tout ce que nous présente Dieu comme obligation relève du féminin, quoi. Et je trouve ça extraordinaire. Et je pense que dans son prochain, elle nous dira sans doute que Dieu est d'origine africaine, que Moïse était noir.
Oui, moi je voulais vous taquiner pour la fête de Hanouka.
De Hanouka.
Hanouka, oui. Vous en avez fait une description qui est absolument contraire à ce qu'on nous a expliqué.
Absolument. Absolument. Je crois qu'il ne faut pas, avoir de... Excusez-moi, pour les gens qui mangent cachère, il ne faut pas avoir de peau de saucisson devant les yeux. Bien évidemment. Bien, chercher, il faut gratter. Et quand on voit Et je le dis avec beaucoup de désespoir, la catastrophe qui a été pour le peuple juif, cette dynastie hasmonéenne, ça a été épouvantable. Comment est-ce que les Romains sont arrivés sur la terre de Judée? Parce que tout simplement, Jean Hyrcan et Aristobule se faisaient la guerre, les descendants de Judas Maccabée, et qu'il y en a un qui était assiégé à Jérusalem et qui n'arrivait pas à en sortir et qui appelait les Romains à la rescousse. Les Romains, ils n'étaient pas loin, ils étaient en Égypte. Ils sont venus, et quand les Romains viennent, ils ne repartent plus. Je veux dire que cette espèce de dynastie hasmonéenne, non seulement elle s'est hellénisée, non seulement elle s'est absolument entretuée, non seulement elle a réalisé le plus détestable, c'est-à-dire la liaison incestueuse entre le pouvoir politique et la religion, parce que tous ces gens étaient princes et grands prêtres en même temps, catastrophe dans toute l'histoire de l'humanité et celle de l'Église, de la chrétienté. La collusion entre le pouvoir et la religion s'est toujours soldée par des massacres et des catastrophes. Donc bien comprendre que cette période hasmonéenne qu'on présente pour des motifs que vous devinez dans le peuple juif et en Israël en particulier comme une période glorieuse pour les armes juives, pour le nationalisme, au plan politique et religieux, c'était une authentique catastrophe. Et quand je fais allumer les bougies à Hanouka, ma petite communauté aux enfants, on fait une fête très festive. Mais je leur dis, c'était une guerre civile. Il y avait des gens qui étaient pour les Grecs et des gens qui étaient contre les Grecs. Et ceux qu'on a cru vainqueurs, au fond, ils ont été vaincus par la société, la civilisation à la mode à cette époque-là. Ça note rien au fait que c'est très sympa d'allumer les bougies, c'est très sympa de célébrer la dédicace du temple, parce que Hanouka ça veut dire dédicace, de célébrer le miracle de l'huile. Il n'empêche que il faut avoir les bonnes lunettes pour lire. Lisez les prophètes. L'autre jour, on a lu un texte, là, enfin hier soir d'ailleurs, on a lu un texte, on a beaucoup parlé de Yirmiyahu, de Jérémie, si vous voulez. Les fois d'avant, on avait parlé de Yeshayahu, d'Isaïe. Les prophètes, ce ne sont pas des allumés, ce sont pas des mecs qui sont complètement déjantés, hein, qui sont des gourous style religion New Age, ça n'a rien à voir. C'est au contraire des gens qui ont une extraordinaire lucidité politique pour la situation morale, économique et historique de leur peuple. Sur le texte que nous avons lu hier ensemble, que dit Jérémie ? Il s'adresse dans une adresse au peuple juif, il leur dit « Revenez à vos fondamentaux, revenez à l'alliance avec Dieu, vouloir être comme les peuples avoisinants, vous n'y arriverez pas, vouloir privilégier la force militaire contre la Babylone, vous n'y arriverez pas, ils sont plus forts que vous, alors écrasez-vous les mecs et revenez à votre religion, et comme ça vous allez vous sauver. » Moyennant quoi, il a été mis en tôle, on l'a battu avec des fouets, avec des verges, parce qu'il avait dit tout simplement la vérité. Donc cette idée même que il faut lire notre histoire avec les bonnes lunettes, qui sont des lunettes historiciennes, économiques, politiques, contemporaines, c'est le meilleur service qu'on peut rendre à notre foi, à notre pratique religieuse, parce qu'on débarrasse toute cette histoire des scories nationalistes, des scories militaires, de tout ce qui n'a rien à y foutre. Et puis, surtout, on peut réhabiter les problématiques de maintenant, à propos du particularisme juif en particulier, je dirais spécifiquement, au fond. Si le peuple juif n'est pas différent, il n'y a plus de peuple juif. Si le peuple juif doit se comporter comme toutes les autres nations dans une réelle politique violente, eh ben, il n'est pas conforme à son histoire. Et on mériterait d'avoir de nouveau des prophètes qui viennent nous dire « Écoutez, oh les mecs, revenez aux fondamentaux. Hein. C'est pas comme ça que vos parents vous ont élevé, c'est pas comme ça qu'on vous a présenté les choses au Mont Sinaï, quoi. » C'est pour ça, moi, c'est une défense et illustration d'une bonne lecture de la tradition juive, en la débarrassant de ce qui n'a rien à y faire, au fond. La pire des choses qui soit arrivée au peuple juif, c'est quand ils viennent voir Samuel en disant « Samuel, on va être comme tout le monde, on va un roi. » C'est là que ça commence à déconner complètement. C'est là qu'on s'aperçoit que cette espèce de balancement permanent qu'il y a dans l'histoire juive entre la Torah de Moshe, la Torah de Moïse, qui est celle du Dieu individuel, Dieu des temps, Dieu de la famille, et la Torah d'Aaron, son frère, qui est le Dieu de la hiérarchie, des prêtres et des armées, ce balancement permanent, on va le trouver tout le temps. Cette idée de cette espèce de mélange entre temporel et spirituel. Moi, je pense qu'il faut revenir à la Torah de Moshe, Torah de responsabilité personnelle, Torah d'enseignement, Dieu individuel. Au fond, on se perd. Hein, on se perd dans la politique. On se perd. Non, mais là, on est un peu sorti du débat, là. Ouais.
Je vais continuer à sortir du débat. J'ai quand même pensé à Israël. Et tu penses que l'État israélien a déjà un rapport incestueux entre le spirituel et le politique?
Non, alors, on ne peut pas dire ça, parce que quand même, l'immense majorité des Israéliens sont chilonim, ils sont complètement laïcs. Et ils sont fous de rage de voir les cadeaux que les Haredim obtiennent en monnayant leur voix électorale. On est dans un système parlementaire identique à celui de la quatrième, c'est-à-dire que les religieux en Israël, qui sont quand même, on peut dire, en pourcentage de voix autour de entre 15 et 20%, monnayent leur participation à la coalition sous la forme de subventions qui leur permettent de survivre. C'est tout à fait ça. Donc on n'est pas dans le mélange religieux et du politique, on est dans un cynisme absolu qui est celui de la quatrième ou tout simplement de la République italienne actuelle, quoi, qui fonctionne sur le même mode. C'est de cela qu'il s'agit. Je ne fais pas allusion à ça. Je fais allusion au fait que notre histoire nous impose une responsabilité et des devoirs. Il est inacceptable que l'État d'Israël se comporte comme ses ennemis actuels ou d'antan. C'est pas possible. Il y a une dimension qui doit exister, qui est une dimension liée à nos engagements, qui est une dimension éthique et morale. On ne peut pas être comme tout le monde. Deuxième chose, la Bible, j'ai dit tout à l'heure que ce n'était pas un code religieux. Ce n'est pas un code juridique. C'est un code éthique. Mais il y a une chose que la Bible n'est pas, c'est un cadastre. C'est-à-dire, pas que quelqu'un va te dire que nous avons été là, voici 3000 ans, c'est marqué dans la Bible, c'est à moi. Eh ben non. Parce que la terre, elle est donnée sous condition. C'est aussi simple que ça. La terre a été donnée pour des choses comme cela. Souviens-toi, si tu lis un peu le premier livre, de cette superbe paracha qui s'appelle Kitavo, qui est dans le Deutéronome. Donc les Juifs se préparent à rentrer sur la terre de Canaan. Et que nous dit la paracha Kitavo ? Avant même de mettre le pied sur cette terre, la première chose que vous allez faire, ériger deux stèles. Et sur une des stèles, vous marquerez, et c'est important, création de tribunaux, création de cours de justice. Sur la deuxième, vous marquerez la loi sur les prémices. C'est-à-dire toute la production de cette terre, d'abord, doit être réservée à ceux qui ne produisent pas, à ceux qui n'ont pas la terre. C'est-à-dire les vieux, les veuves, les orphelins, les lévites qui travaillent au temple. Donc, je veux dire, il y a déjà d'entrée de jeu des principes qui sont là et qui sont des principes complètement modernes. Cette idée du partage, cette idée que la possession de la terre, elle est conditionnelle. Et tu vas trouver d'autres éléments. Le yuval, le jubilé, le yuval. Yuval, c'est la corne. C'est la corne qui va sonner le jour de l'arrivée du Messie. Mais le yuval, c'est le jubilé, au bout de 49 ans, on rend la terre. La propriété dans la tradition juive réelle, elle est conditionnelle. Vous devez rendre vos biens à la 49e année. La 7e année, vous devez libérer vos esclaves. Hein? L'esclave dans la tradition juive, ce n'est pas tout à fait l'esclave issu d'une rapine militaire. C'est quelqu'un qui ne paye pas ses dettes et qui s'engage pour un travail chez un patron. C'est ça un esclave dans la tradition juive. Il a d'ailleurs beaucoup de droits. Hein. Il a l'obligation de faire le Shabbat. Il a le droit à avoir, comme dit le Talmud, s'il y a un oreiller dans la maison, il est pour l'esclave et pas pour le patron. Mais il a plein de droits. Mais, de toute façon, au bout de 7 ans, il doit être libéré. Qu'il ait réglé sa dette ou pas libéré. Mais au bout de 7 fois 7, 49, c'est tout qu'on rend, la terre et les propriétés. Donc cette idée même que la possession de la terre, elle est liée quand même à un contrat, qui est un contrat avec le patron, et que ça nous impose en échange un comportement particulier assez réel. Et bien que je sois passionnément attaché à l'État d'Israël, parce que les restes de ma famille sont là-bas, bien évidemment, comme tu le devines, hein, les survivants du grand massacre, et que j'y vais souvent et que je parle hébreu, je veux dire, je rends malheureux qu'il n'y ait pas une forme d'exemplarité et de conformité avec ce qui est écrit, qui se manifeste là-bas. Ça viendra sans doute, hein, on est toujours dans ces problèmes de hasard et de nécessité historique, hein, c'est pas simple de créer un État. Mais c'est quand même un problème. Je ne pense pas qu'on soit sur la terre d'Israël pour ressembler aux États-Unis. Et je suis désolé pour nos Américains, mais la vocation du peuple juif, ce n'est pas spécialement de ressembler à un énième État américain. Il y a quand même autre chose qui me porte et qui me fait vivre et qui me fait porter ce regard désolé sur la situation qui est là-bas. On rejoint un peu ce problème de Caïn et Abel que j'évoquais tout à l'heure pour vous proposer ce soir un ridouche, une nouvelle lecture du meurtre d'Abel par Caïn, et en disant que la faute, c'est Abel qui avait les moyens intellectuels de laisser une place pour la parole de son frère, de créer les conditions de la rencontre, comme dit le rabbin Bernheim. Hein, c'est ce qu'il dit, créer les conditions de la rencontre. Eh bien, c'est la même chose pour la terre d'Israël. C'est au plus fort, au plus intelligent, au plus doué de créer les conditions de la rencontre. Et là, il sera conforme tout à fait à cette vocation-là. Alors, j'émets là des idées qui sont sans doute, pour beaucoup d'entre vous, d'une naïveté insondable. Hein, mais je profite du fait que j'ai le micro. Pardon ?
Je disais, vous savez bien que ce n'est pas possible, étant donné que quand on prend l'histoire d'Israël depuis le deuxième siècle, où les peuples ont été dans la diaspora partout, et qu'ils ont été pas souvent bien traités, parfois oui, il y a eu quand même des périodes où ils ont été chassés du pays où ils étaient, interdits de certaines choses, et à partir du moment où, après le massacre des années 40, ils veulent avoir leur patrie, enfin, qui depuis pas mal d'années et des dizaines d'années, ils ont parlé, et qu'ils l'ont. Et ils sont entourés de gens qui essayent de les sortir de là, non pas parce qu'ils les gênent vraiment, eux, je parle des pays environnants, parce qu'eux, ils ne les gênaient pas, mais surtout parce qu'ils veulent traiter de leurs problèmes personnels au travers d'Israël. Et aujourd'hui, bien sûr qu'Israël, je suis d'accord avec vous, qu'elle ne fait pas ce qu'il doit faire, mais est-ce qu'il pourrait le faire? Si on les laisse faire, ils sont le dos à la mer.
Moi, je pense qu'on n'a on a vraiment pas utilisé toutes les possibilités. Je pense que baser une politique sur la peur, c'est pas bon.
Je suis d'accord.
Les Juifs de France qui partent s'installer en Israël parce qu'ils ont peur, c'est pas bon.
Bien sûr.
La diaspora, c'est-à-dire le n'entraîne pas les gens à cesser d'être juifs dans les pays où ils habitent. Au contraire, ça les renvoie à une identité et à un devoir d'exemplarité et un devoir de témoignage. Je crois que nous avons une vocation sur la diaspora. Pendant très longtemps, mes cousins en Israël me disaient « Quand est-ce que tu viens ?» Je leur disais « Pourquoi faire ? Hein ? Vous vous débrouillez très bien. » Et moi, j'ai du boulot ici. Et tout simplement, être juif parmi des non-juifs, c'est aussi une responsabilité.
Mais on a vu ce que ça a donné, excusez-moi, on a vu ce que ça a donné dans les années 40. Ils n'ont pas été à même de se défendre. Ils ont été exemplaires au sens où, où les politiques en place, les nazis, leur disaient de faire certaines choses et ils l'ont fait.
Ouais.
Est-ce qu'il fallait qu'ils continuent en 1947 ou 48 ou 60?
Je pense quand même, c'est sincèrement, sans vouloir vous fâcher,
non.
Moi, 80% de ma famille a disparu dans la Shoah. Mais je ne fais pas de la Shoah une idole. Je ne vis pas en fonction de la Shoah. Je veux dire que quelque part, les témoins sont morts, les responsables sont pour la plupart morts, on ne construit pas une vie sur une catastrophe. Deuxième chose, l'histoire de la Shoah, c'est là aussi, j'ai parlé de paradigme en histoire juive, c'est un paradigme du mal, de la barbarie humaine, qui se révèle partout, tous les jours, en Syrie maintenant, au Rwanda, au Kosovo. Je veux dire, il n'y a pas de particularisme apporté à ce niveau-là. Il faut sortir de cette paranoïa qui est là. À côté de ça, il faut se souvenir de ce qu'on a apporté au monde. Parce que pour moi, le christianisme est ancré dans le judaïsme. Et l'islam est ancré dans le judaïsme. Je veux dire que ce sont des religions qui ont donné aux valeurs impliquées dans ce vieux livre une dynamique et un public absolument énorme. Ça a été des courroies de transmission extraordinaires. Comme je vous l'ai dit, nous avons toujours balancé entre le particulier et l'universel. Moi, je dis que le christianisme, c'est le judaïsme de l'universel. Hein. Et donc, vous voyez, je ne suis pas du tout gêné cette coexistence. Il n'empêche que j'ai des choses à dire en tant que juif qui héritait d'une mémoire, mais je ne me laisse pas dévorer par cette mémoire et je ne suis pas obnubilé parce que ces fameux massacres ont eu lieu à toute époque, du fait de l'Europe chrétienne, du fait des Romains, des choses comme cela. Il y a même un homme qui s'appelait Yosef HaKohen au Moyen-Âge qui a rédigé un bouquin qui s'appelle Emek HaBacha, la vallée de larmes, en recensant toutes les communautés juives d'Europe massacrées par les croisés en partance pour la Terre Sainte, si vous voulez. Ils se faisaient la main sur toutes les vieilles communautés, celles qui avaient été installées par Charlemagne, à Worms, à Mayence, à Francfort. Il y a eu des massacres à Reims, il y a eu des massacres absolument partout. Il y a eu des bûchers. On ne vit pas en fonction de la persécution.
Je suis d'accord avec vous sur le fond, totalement. Simplement, je dis que dans l'état actuel des choses, il serait très difficile l'État d'Israël de survivre s'il voulait l'appliquer. Il ne peut pas, étant donné le contexte qu'il a autour de lui. La preuve, la Syrie, il n'y a pas d'Israéliens qui se battent. Et ça massacre.
Je ne suis pas convaincu par la politique du copain de Trump, là, de Netanyahou. Vous connaissez, vous venez une jolie histoire, c'est une histoire israélienne. On raconte qu'à la poste de Tel Aviv, il y a une grande queue un jour. Et il y a un type qui s'énerve, il y a une heure qui fait la queue. Il dit, je vais quitter ce pays de merde, mais avant ça, je vais aller tuer Netanyahou. Et le gars qui est devant lui dit, là-bas, la queue est plus longue. Evelyne.
Père, je t'aime beaucoup, mais...
T'es pas d'accord.
Mais tu te plantes complètement. Alors, en fait, je t'entends, ce que j'entends Albert Fachler, il a envie de retourner en Pologne. Si nous, on n'a pas notre pays Israël, ben on n'est rien du tout.
Mais je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que tu disqualifies la diaspora pour autant ? Et les 5 millions de juifs qui sont aux États-Unis, ils sont moins juifs que les Israéliens ? Ils sont beaucoup plus juifs que les Israéliens ?
Non, ils sont moins religieux que les Français, mais ils sont plus religieux que les Israéliens. Mais ça n'a rien.
C'est bien ce que je viens de te dire. C'est bien, je ne me plante pas du tout. Je ne conteste pas la légitimité de l'État d'Israël. Je conteste qu'une politique qui me semble asmonéenne. Je crois qu'on est revenu au temps de Judas Maccabée. Qu'est-ce que tu veux ? La force.
Merci Albert. Parce que
tu vous en arrêtes ?
Pour cela, parce qu'il y a encore des questions sur Qohelet.
Alors en quoi cette nuit se distingue-t-elle des autres nuits ?
N'est-ce pas ? Mais c'est un très très long débat. Déjà, vous voyez, chers amis, c'est déjà entre juifs. Donc imaginez ce que c'est lorsque ça ne l'est pas, ou ça l'est moins, et c'est vrai que l'on avait dit qu'ici c'était délicat de parler de cela, et en même temps, c'était, oui, ce que tu as dit, c'était à entendre, parce que c'est quand même intéressant d'avoir un point de vue, et c'était bien qu'Evelyne aussi dise des choses, et vous qui êtes intervenu, monsieur aussi, bien sûr, il y aurait tellement à dire encore et encore, et comme c'est pas ce soir
c'est
ce
pas sujet,
débat, et que l'heure tourne, et je pense à toi qui dois monter dans les montagnes, je veux passer donc, si vous permettez, n'est-ce pas hein, c'est, mais ouais, c'est, le sujet est passionnant. Hein.
Les questions sur Qohelet,
allez,
alors.
C'est Norbert.
Voilà, Norbert, il y a longtemps qu'il ne m'avait pas questionné.
Voilà.
Ce ne sont pas des questions.
Non.
Ce ne sont pas des questions, je repose rarement des questions en fait, je dis plutôt les résonances que le conférencier a produit en moi. Juste avant, une petite
Tu as parlé de Delphine Horviller, que tout le monde ici, je pense, mon admiration devant tout le monde ici, pas tout le monde, partout, y compris sur les sites juifs, y compris sur le site que j'alimente, notre site avec Academ. Et chaque fois que Delphine Horviller intervient sur Academ, elle a des insultes terribles de la part de juifs.
Bien sûr.
Savoir. Alors, au sujet de Cain, Delphine Horviller, avec son humour, dit « L'histoire de Cain et d'Abel peut se résumer à une confrontation entre un demi-dieu et une clopinette. » Entre un demi-dieu et une clopinette. Un demi-dieu parce que Cain se considérait comme un demi-dieu, tout lui appartenait. Puis la clopinette, ben voilà, c'était Abel, la buée, disons. Je voulais dire que moi, trois lettres auraient suffi à résumer mon ressenti ce soir. C'était QDB ou QDR. QDB, que du bonheur et que de résonance. Parce que tu as cité, tu as abordé des questions fondatrices, des questions avec des maîtres majeurs, pour moi en tout cas. J'étudie tous les jours et la plupart du temps ce sont des maîtres du judaïsme. Et j'ai retrouvé beaucoup de choses extrêmement importantes. Et j'ai particulièrement aimé ton... Voilà, en remontant à la troisième de tes dernières interventions, la réponse à Jean Albert... Parce que dans cette intervention-là, tu as résumé les raisons pour lesquelles je suis tellement attaché, je suis protestant, mais tellement attaché au judaïsme, justement pour son éthique. Et en quelques mots, tu as dit ce qu'était l'éthique juive. Et après, tu as parlé de déploration, et c'est vrai qu'on peut déplorer, on ne va pas y revenir, mais tout était dit, c'est extrêmement important. Sur le ridouche, avec toi, en fait, ce n'est pas renouvelé pour le plaisir de renouveler. Tu as cité le grand rabbin Alexandre Safran, et ce que tu nous as offert, ce que tu nous offres toujours, correspond à la définition que Alexandre Safran donnait du ridouche. Il disait, un vrai ridouche, c'est un renouvellement inventif. Et avec toi, en fait, c'est toujours un renouvellement inventif. C'est ça le vrai ridouche.
Oui.
Voilà. Mais tu sais très bien que je n'ai pas l'habitude de flagorner. Hein. Ce n'est pas trop mon genre. Ton action quotidienne et les contributions que tu apportes aux différentes communautés, à la nôtre ce soir, mais à la tienne à Chambéry, nous exhortent à nous tenir au diapason du renouvellement, justement. En vue de l'éprouver, et ça a été dit avec d'autres mots ce soir, dans notre existence personnelle, et vraiment ce soir on l'a bien senti. Tu as parlé du Maharal de Prague.
Je n'en ai pas parlé.
Non.
Ah, tu es interdit d'être vieux.
Non,
Narman
de
Brassens. Ah, oui, pardon. J'ai interdit les deux. Donc, une définition du terme vieux. Quelqu'un de vieux, c'est quelqu'un qui commence, et tu viens de le dire il y a quelques instants, qui commence à raconter son passé au lieu de dire « je ferai » et surtout au lieu de « faire ». Tu as dit « on ne construit pas une vie » sur une catastrophe. Et là, on retrouve Exode 24-7, nous ferons et nous entendrons. Tu as dit, tout est inspiré par Dieu. Enfin, j'ai entendu ça. Moi, je n'irai pas jusque-là, mais... notamment pour ce qui concerne la haine.
Oui.
Mais...
Coëlette, hein, c'est pas moi. Hein.
Ouais, voilà. En revanche, je crois que Dieu nous inspire la manière de répondre à la haine. Je vais vous le démontrer tout de suite. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Aurélien Antoven. Aurélien Antoven, c'est le fils de Raphaël Antoven et de Carla Sarkozy. Et en ce moment, il est victime d'agressions extrêmes, abominables sur les réseaux sociaux. Il est traité de tous les noms. Et un des termes qu'on retrouve très très souvent, et Eliane le connaît bien, ce terme-là, c'est ce terme-là.
Non, mais je vais vous le dire. Mais il faut que je l'écrive pour pouvoir démontrer. C'est Youpin. Très intéressant ce que Dieu nous... Mais Dieu, il nous donne la réponse. La réponse, elle est là, regardez. Il suffit de supprimer la haine. Quand on supprime la haine, il reste quoi? Il reste Youpi. Quand on supprime la haine, on se retrouve dans la dynamique de la joie. Et je crois que Dieu il nous donne les réponses. C'est pas de moi, hein, c'est pas de moi. Oui, vous pouvez applaudir, mais c'est pas moi qu'il faut applaudir parce que je ne l'ai pas trouvé tout seul.
En tout cas, tu nous le donnes en cadeau.
Ce que trop souvent, moi, j'entends, je ne l'ai pas entendu ce soir, mais ce que trop souvent j'entends à propos de Coëlette, c'est la notion de pessimisme, c'est la notion de résignation. Et moi, les auteurs que j'ai étudiés sur Coëlette, ben, ce n'est pas du tout ça. En fait, c'est, par exemple, il n'y a pas de pessimisme, mais il y a, et tu l'as très bien dit, il y a de la sagesse, je vais y arriver là, sagesse humaine et spirituelle. En réalité, ce qu'on y lit, c'est qu'il y aura du bonheur pour ceux qui craignent Dieu. Mais il n'y aura pas de bonheur pour le méchant. Et que passant comme l'herbe, il ne prolongera pas ses jours parce qu'il est sans crainte devant la face de Dieu. Voilà, oui. C'est cette lecture-là. Je crois que tu nous l'as faite, cette lecture-là, ce soir.
Là, je suis d'accord avec toi. Tout à l'heure, tu me disais que j'avais cité Nachman de Breslav. Oui, j'aime beaucoup le citer parce que c'est quelqu'un avec qui je suis très, très familier. C'est l'homme qui disait « Souviens-toi de ton futur ».
C'est ça.
Et je crois que l'idée, c'est pas forcément d'avoir un constat comme « Désolé sur ce monde ». C'est se souvenir qu'il y a un monde des possibles et que cette intuition de la création, elle est absolument liée à ça. Sans compter que pour cette notion d'introduction du futur, il suffit de traduire Yod, He, Vav, He, qui est tellement mal traduit par Jéhovah. On traduit comme une conjugaison du verbe être qui dit « je suis, je serai ». Hein, cette idée même que on est dans le futur, en même temps que dans le présent et dans le passé, je crois que c'est tout à fait central. Et c'est ce qui vient éclairer ce constat intelligent que fait Coëlette, ce questionnement qu'il propose, parce que nous savons très bien que si on n'est pas question, on n'est pas homme. Hein, vous savez que la valeur numérique du mot « homme » dans la Kabbale, c'est la même que celle du mot « ma », « quoi ». Si on n'est pas un quoi, on n'est pas un homme, tout simplement. Et que dans la Bible, dans notre tradition, il y a beaucoup de questions, mais certainement, il n'y a pas beaucoup de réponses. Comme d'ailleurs, dans Coëlette, il y a un questionnement qui est tout à fait réel, qui est sincère, qui est courageux et qui est lucide. C'est pour ça qu'il y a une certaine... Les vérités qu'il prononce et l'espérance qu'il propose, elle est extrêmement allusive. Et que la terminaison est si brève, il dit qu'au fond, on n'échappe pas à cette idée que notre salut commence par le faire, par le signifier, et par indiscutablement le respect des mitzvot, qui concerne, comme tu l'as très bien dit, essentiellement notre rapport à notre corps, à notre être au monde, et à l'autre individu, bien évidemment.
Et alors, c'est comme si tu avais les notes que je vais lire, parce que, en fait, le point suivant, c'était l'intelligence. L'intelligence, c'est le cœur intelligent. Et là, je vais citer Francis Scott Fitzgerald dans La Fêlure, qui dit « La marque d'une intelligence de premier point, et là, tu nous en as donné une illustration lumineuse ce soir, donc la marque d'une intelligence de premier plan est qu'elle est capable de se fixer sur deux idées contradictoires, sans pour autant perdre la possibilité de fonctionner. » On devrait par exemple pouvoir comprendre que les choses sont sans espoir et cependant être décidé à les changer.
C'est beau, ça.
Et là, tout était dit ce soir.
Oui, moi, j'ai pas de problème avec les idées contradictoires. Je suis marié depuis 54 ans.
Tu as cité André Néer, lumineux André Néer. lumineux André Néer qui a dit, donc, rapport avec le cœur, là, le cœur est le dernier refuge de l'identité humaine. Le cœur désigne la personnalité. Voilà, là encore, résonance. Et puis, dernière chose, l'intranquillité. L'intranquillité, je voudrais citer, on a la chance aussi, nous, dans le monde protestant, d'avoir des gens lumineux. Je pense à la théologienne Marion Muller-Collard, qui dit, dans nos âmes tranquilles, il importe de laisser s'introduire un petit caillou. Il importe d'accepter que notre patte humaine soit constamment étirée. Merci beaucoup.
Bien, il me semble que sur ces paroles formidables...
Au cinéma, on appelle ça un bonus, c'est une conférence dans la conférence.
Dans la conférence, toujours avec Norbert, qui peut à la fois donner son ressenti et nous faire aller encore plus loin, avec bien sûr toi comme répondant. Et voilà. Je pense qu'on peut remercier notre ami Albert de nous avoir fait une conférence absolument remarquable. Elle était dense, très dense, avec un niveau de culture, Albert, qui nous dépasse vraiment, je pense, pour beaucoup. Moi, je me suis sentie pour beaucoup dépassée par certains liens à revoir, justement, et à comprendre, mais dans le sens que tu souhaitais nous faire toucher, oui, de l'universel, oui. Merci, merci, merci encore, merci encore, merci. Avec plaisir. Et merci à